Vous écoutez On lit pour vous.
Soins de longue durée. Qu'est-ce qui influence le choix des enfants pour leurs parents âgés? Un texte de Marie-Louise Leroux, Raquel Fonseca et Whitney Compère, paru le 27 mai 2026 dans La Conversation. Qui s'occupera de nous en vieillissant et à quel prix pour ceux qui restent? Entre obligations familiales et contraintes professionnelles, les choix des futurs proches aidants sont loin d'être évidents. Dans un contexte de vieillissement rapide de la population, cette question devient centrale. Qui prendra en charge les personnes âgées en cas de perte d'autonomie? Si les systèmes publics jouent un rôle essentiel, ils ne peuvent répondre seuls à la demande croissante de soins de longue durée. Actuellement, une large part des soins repose sur les proches. Comment les individus envisagent-ils ce rôle? Qui sont-ils prêts à aider? De quelle manière et à quel prix? À partir d'une enquête que nous avons menée en 2023 auprès de 2300 personnes âgées de 45 à 58 ans au Québec et en Ontario, nous avons pu mettre en évidence des tendances dans les choix envisagés par les proches aidants potentiels. L'enquête s'appuie notamment sur des questions visant à mieux comprendre leurs intentions futures en matière de conciliation entre travail et famille, dans l'éventualité où un parent ou un beau-parent perdrait en autonomie. Nos résultats montrent que ces décisions relèvent d'arbitrages complexes qui ne sont pas uniquement déterminés par l'affection ou les ressources financières. Aider ses parents plutôt que ses beaux-parents. Premier enseignement. Les liens familiaux jouent un rôle déterminant et la solidarité familiale reste fortement structurée par la filiation directe. Lorsqu'on demande aux répondants s'ils seraient davantage enclins à aider leurs parents ou leurs beaux-parents, une majorité nette privilégie ses propres parents. 79 % des femmes et 68 % des hommes aideraient prioritairement leurs parents. Cette préférence est encore plus marquée chez les personnes qui ne sont plus en couple. Lorsque le lien conjugal disparaît, les obligations envers la belle-famille s'effacent presque entièrement, avec plus de 90 % des répondants qui aideraient leurs parents. Rester à domicile ou entrer en établissement? Dans un deuxième temps, l'enquête demandait aux futurs aidants quel type de soins ils souhaiteraient privilégier entre des soins à domicile assurés par la famille ou les proches, des soins à domicile assurés par des professionnels ou un placement en CHSLD. Parmi les répondants ayant exprimé une préférence claire, environ 74 %, près de la moitié anticipe un recours au CHSLD, tandis qu'environ 30 % privilégieraient les soins familiaux à domicile. Ces choix semblent fortement liés à des contraintes concrètes auxquelles font face les proches aidants. En particulier, les personnes travaillant à temps plein sont plus susceptibles de vouloir recourir à des soins professionnels à la maison plutôt que de prendre en charge ces soins eux-mêmes. De même, lorsque les répondants anticipent une espérance de vie de la personne dépendante plus longue, et donc si la perte d'autonomie est perçue comme durable, les solutions institutionnelles sont plus souvent envisagées. Un engagement souvent limité par le manque de temps. Enfin, le troisième volet de l'enquête abordait le temps que les personnes interrogées seraient susceptibles de consacrer à leurs proches. Parmi les personnes ayant exprimé une préférence stricte pour un nombre d'heures donné, environ 83,5 % d'entre eux, 8 % envisagent un engagement de moins d'une heure et environ 41 % un engagement entre 1 heure et 10 heures par semaine. À l'autre extrême, environ 15 % des répondants déclarent vouloir donner plus de 20 heures par semaine. Les 54 à 58 ans déclarent plus souvent vouloir offrir une aide minimale, moins d'une heure par semaine, plutôt qu'un faible volume d'heures, 1 à 10 heures, surtout lorsque l'état de santé du bénéficiaire est jugé très bon ou excellent, ce qui suggère que l'aide s'ajuste aux besoins perçus. À l'inverse, plusieurs facteurs diminuent la probabilité d'un engagement aussi limité. Le fait d'avoir un diplôme secondaire, de disposer d'un niveau d'épargne plus élevé, ainsi que le fait que le bénéficiaire soit un parent plutôt qu'un beau-parent. Pour une aide intensive, plus de 20 heures par semaine, plusieurs facteurs ressortent clairement. Ce type d'engagement, par rapport à un nombre d'heures faible, est plus souhaité chez les répondants femmes et ceux âgés de 54 à 58 ans. Elle est également fortement liée aux besoins du bénéficiaire, notamment lorsque son état de santé est jugé passable ou mauvais. L'anticipation d'un départ tardif à la retraite est associée à une plus forte probabilité d'engagement intensif. Le lien filial joue ici encore un rôle central en augmentant significativement la probabilité de fournir un volume d'aide élevé. En revanche, le fait d'occuper un emploi à temps plein constitue un frein majeur, en réduisant fortement la probabilité d'un tel engagement, ce qui souligne le rôle contraignant des obligations professionnelles. Somme toute, les résultats de cette étude démontrent clairement que les décisions d'aide ne relèvent ni d'un altruisme pur, ni d'un simple calcul économique. Elles résultent essentiellement d'arbitrage où interviennent les contraintes professionnelles, les normes de genre, la relation filiale et les besoins perçus du proche. Mais leur poids varie selon les situations. Anticiper aujourd'hui pour mieux vieillir demain. Cette étude met en avant que les décisions d'aide se construisent en amont des situations de dépendance. Elles reposent sur des anticipations, des contraintes perçues et des normes sociales. Mieux comprendre les mécanismes à l'origine des décisions prises par les proches aidants permettra d'anticiper les besoins futurs et d'adapter les politiques publiques en conséquence. Si les proches aidants doivent jouer un rôle central, encore faut-il leur en donner les moyens. Plusieurs pistes apparaissent essentielles. Faciliter la conciliation entre emploi et rôle d'aidant, offrir un soutien financier pour limiter les pertes de revenus, développer une offre de services professionnels accessibles et complémentaires à l'aide familiale. Dans un contexte de vieillissement accéléré, la reconnaissance de ces enjeux et la mise en place de politiques efficaces sont nécessaires afin de garantir à la fois le bien-être des personnes proches aidantes et de leurs parents, ainsi que la viabilité des systèmes de soins. C'était « Soins de longue durée ». Qu'est-ce qui influence le choix des enfants pour leurs parents âgés? Un texte de Marie-Louise Leroux, Raquel Fonseca et Whitney Compère, paru le 27 mai 2026 dans La Conversation.
Benjamin Franklin voulait envahir le Québec. Un texte de Jean-Thomas Léveillé, paru le 15 juin 2026 dans La Presse. On le connaissait comme scientifique, diplomate et l'un des pères de l'indépendance des États-Unis. Mais Benjamin Franklin fut aussi, 250 ans avant Donald Trump, un fervent partisan de l'invasion du Canada. Entrevue avec la journaliste Madeleine Drohan, autrice du récent livre « He did not conquer, Benjamin Franklin's failure to annex Canada ». Benjamin Franklin a évoqué à plusieurs reprises l'idée d'annexer ou d'envahir le Canada. Quand a-t-il exprimé cette idée pour la première fois? La première fois, c'était en 1751. Il a rédigé une brochure sur la croissance démographique dans les 13 colonies. Dans cette brochure, il affirmait que la destinée des colons américains était d'occuper l'ensemble du continent. Cela revenait donc essentiellement à s'emparer du Canada. La brochure s'intitulait « Observations concernant l'accroissement de l'humanité et le peuplement des pays ». Pourquoi tenait-il tant à annexer le Canada? La sécurité. Depuis les années 1500, les colons français et anglais en Amérique du Nord se battaient les uns contre les autres. Et donc, à l'époque, dans les colonies, il y avait beaucoup de gens qui voulaient simplement se débarrasser des Français au Canada. Au moment de l'invasion de 1775-1776, c'était aussi un moyen d'affaiblir la Grande-Bretagne. Franklin a également pensé qu'il serait bon de s'emparer du Canada parce qu'on pouvait gagner de l'argent en vendant des terres. Il y avait un aspect financier, en plus du désir de se débarrasser des Britanniques. Quand les Américains ont envahi la province de Québec en 1775, était-ce sous l'influence des écrits de Benjamin Franklin? Non. Ce qui a déclenché l'invasion, c'était une rumeur qui circulait selon laquelle la Grande-Bretagne allait armer les Canadiens français et attaquer les 13 colonies américaines par le nord. Ce n'était qu'une rumeur, car la Grande-Bretagne n'aurait pas pu le faire. Elle n'avait pas assez de soldats au Canada et les Canadiens français refusaient de rejoindre leurs milices, donc il n'y avait aucune chance qu'il y ait une invasion. Mais en raison de cette rumeur, les Américains ont décidé qu'il ferait mieux de frapper les premiers. En avril 1776, Franklin se rend à Montréal. Quel est le but de ce voyage? Le Congrès continental a demandé à Benjamin Franklin et à deux autres personnes, Samuel Chase et Charles Carroll, d'aller au Canada pour remettre de l'ordre dans le chaos causé par l'invasion et mettre en place un nouveau gouvernement au Canada. Le siège de la ville de Québec durait depuis le mois de décembre. Le Congrès pensait encore à ce stade que l'invasion pouvait être sauvée. Il fallait juste une main de fer. Et bien sûr, Franklin était cette main de fer. Il a accepté. Ça cadrait avec sa façon de penser que le Canada devait être américain. Mais il ne leur a pas fallu longtemps pour se rendre compte que la situation dépassait ce qu'ils pouvaient réparer. L'armée continentale américaine était en plein désarroi. Elle était criblée de dettes et les Canadiens français s'étaient retournés contre elle parce qu'elle confisquait tout ce dont elle avait besoin. Et qu'a fait Franklin pendant son passage à Montréal? Difficile à savoir, car aucune de ces lettres qui nous sont parvenues ne contient de détails personnels sur ce séjour. Tout ce que nous avons de cette période, ce sont les lettres officielles rédigées par ces trois commissaires, Franklin, Chase et Carroll. Mais vous savez, ils n'ont pas eu besoin de beaucoup de temps. Ils sont arrivés le 29 avril et les navires de guerre britanniques ont été aperçus le 6 mai à Québec. Ils n'en ont été informés que le 11 mai, date à laquelle ils sont repartis. Pourquoi associe-t-on le château Ramsay à la visite de Franklin? Parce que c'était le quartier général de l'armée continentale. Le général Benedict Arnold a accueilli la délégation de Franklin en grande pompe et l'a conduite au château Ramsay pour un banquet. Franklin, Chase et Carroll ont eu droit à cette sorte de fête de bienvenue et apparemment, des Canadiennes françaises ont chanté pour eux. Une lettre indique que Franklin logeait chez un certain Thomas Walker, un Américain qui s'était installé à Montréal en pensant y faire fortune et qui était très contrarié par le fait que la Grande-Bretagne n'en ait pas fait une colonie protestante anglophone. Même après la déroute des Américains à Québec, Franklin a continué de caresser son rêve d'invasion. Pouvez-vous nous en dire plus? En 1782, Franklin était à Paris en tant que négociateur pour le traité qui mettrait fin à la guerre entre les Américains et les Britanniques. Il a vu là une autre occasion de récupérer le Canada. Lors de discussions avec son vis-à-vis britannique, il a énuméré quatre choses que la Grande-Bretagne devait absolument accorder aux États-Unis et quatre choses souhaitables. Leur céder le Canada faisait partie de la catégorie des choses souhaitables. Bien sûr, la Grande-Bretagne s'est contentée des quatre points indispensables. La volonté de Franklin d'envahir ou d'annexer le Canada est-elle comparable à celle de Trump? Trump parle aussi de sécurité. C'est en partie ce qui motive son projet. Il veut contrôler le nord de l'Amérique du Nord afin de garantir la sécurité des États-Unis. Il a sans doute été influencé par l'idée de « destinée manifeste » dont Franklin fut un des précurseurs. Je veux dire que cela a toujours été présent dans l'esprit des Américains depuis la création des États-Unis. Sauf que, pour Trump, la sécurité n'est pas seulement militaire. C'est aussi la sécurité économique. C'était quand Benjamin Franklin voulait envahir le Québec. Un texte de Jean-Thomas Léveillé, paru le 15 juin 2026 dans La Presse.
L'humanité pourrait-elle faire disparaître les moustiques? Voici ce que disent les scientifiques. Un texte de la rédaction de Futura Science, paru le 9 juin 2026 dans Futura Science. Les moustiques transmettent environ 17 % des maladies infectieuses mondiales, du paludisme au Zika, en passant par la fièvre jaune et le chikungunya. Avec le réchauffement climatique qui étend leur territoire vers des zones autrefois épargnées, la question d'une éradication ciblée de ces insectes n'est plus de la science-fiction. Chercheurs, entomologistes et institutions de santé planchent sérieusement sur le sujet depuis plusieurs années. Voici un tour d'horizon de ce que la science révèle vraiment. Éliminer les moustiques, une idée moins folle qu'il n'y paraît. Sur les 3500 espèces de moustiques recensées, seule une centaine pique l'être humain. Mieux encore, 5 espèces concentrent à elles seules environ 95 % des infections humaines. C'est la biologiste Hilary Ranson du Liverpool School of Tropical Medicine qui le rappelle. Ces 5 espèces ont évolué pour vivre au plus près de nous, se nourrissant et se reproduisant dans nos environnements immédiats. Leur disparition aurait-elle un impact écologique catastrophique? Hilary Ranson estime que non. Des espèces génétiquement proches mais non vectrices de maladies occuperaient rapidement la niche laissée vacante. L'entomologiste Dan Peach de l'Université de Géorgie nuance tout de même. Les moustiques participent au transfert de nutriments entre milieux aquatiques et terrestres, servent de proie à des poissons et des insectes et pollinisent certaines plantes. Mais ce dernier rôle reste mal documenté selon lui et est difficile à quantifier précisément. Le débat éthique sur l'extinction volontaire d'une espèce est légitime. Ranson elle-même le reconnaît, tout en soulignant que l'humanité en élimine déjà de nombreuses, involontairement, chaque année. Les technologies qui changent la donne contre les moustiques vecteurs. Deux approches concentrent l'attention des chercheurs. Le forçage génétique, cette biotechnologie, modifie un chromosome pour qu'un trait héréditaire se transmette à toute la descendance. Des scientifiques ont ainsi rendu stériles des femelles d'Anopheles gambia, principal vecteur du paludisme, éradiquant une population entière en laboratoire en quelques générations. L'initiative Target Malaria, financée par la Fondation Gates, a testé cette approche en Afrique. Au Burkina Faso, la junte militaire a toutefois suspendu le projet sous pression des campagnes de désinformation. La bactérie Wolbachia, infectée des moustiques Aedes aegypti avec cette bactérie, bloque la circulation du virus de la dengue dans leur organisme. Une étude publiée en 2025 a démontré qu'une libération de ces moustiques modifiée à Niterói au Brésil avait fait chuter le cas de dengue de 89 %. Plus de 16 millions de personnes dans 15 pays bénéficient désormais de cette protection, selon Scott O'Neill, fondateur du Programme mondial contre les moustiques. Des recherches publiées dans Nature fin 2025 suggèrent par ailleurs qu'un essai sur le terrain visant à empêcher Anopheles gambia de transmettre le paludisme pourrait démarrer dès 2030. Mais Dixon Wilson Loetoyera de l'Institut de santé d'Ifakara en Tanzanie le souligne. Ces projets ne peuvent fonctionner sans adhésion politique et sociale dans les pays concernés. L'exemple burkinabé en est la preuve concrète. Hillary Ranson va plus loin. Plutôt que de tout miser sur une alternative technologique unique, elle plaide pour une approche globale. Cela suppose un supérieur accès au diagnostic, au traitement et à des vaccins plus efficaces dans les pays touchés. Un appel d'autant plus urgent que les coupes dans l'aide internationale depuis 2025 fragilisent les programmes de lutte contre les arboviroses dans les régions les plus vulnérables. Éradiquer quelques espèces de moustiques n'est peut-être pas la réponse ultime, mais bloquer leur capacité à nous tuer, la science en est réellement capable. C'était « L'humanité pourrait-elle faire disparaître les moustiques? » Voici ce que disent les scientifiques. Un texte de la rédaction de Futura Science, paru le 9 juin 2026 dans Futura Science.
Bilan routier 2025, les jeunes et les aînés à risque. Un texte de Félix Morissette-Beaulieu, publié le 16 juin 2026 dans Radio-Canada. Le plus récent bilan de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAC, démontre que les jeunes et les aînés sont surreprésentés parmi les 371 personnes mortes sur les routes du Québec en 2025. Si le bilan routier demeure relativement stable dans la province par rapport à 2024, la région de la Capitale-Nationale fait bande à part avec une hausse des décès de 88 %. Il y a un certain plateau. On le voit dans les années en ce qui a trait au nombre de décès, explique Geneviève Côté, porte-parole de la SAAC au sujet du plus récent bilan provincial. En effet, la province a vu son nombre de décès passer de 379 en 2024 à 371 en 2025. Il s'agit d'une légère baisse de 2,1 %. Le nombre de blessés graves, quant à lui, est demeuré stable, alors que le nombre de blessés légers a augmenté de 6,1 %. La distraction au volant, la vitesse, la fatigue et l'alcool demeurent les principales causes d'accidents. Depuis 2006, on observe une baisse marquée du nombre de personnes accidentées, et ce, malgré la hausse continue du nombre de titulaires de permis et de véhicules en circulation. Le nombre de personnes accidentées comptabilisées en 2025 présente quant à lui une hausse par rapport à l'année 2024. Néanmoins, il n'a pas atteint les niveaux observés durant les années antérieures à la pandémie de COVID-19, avant 2020, précise la SAAC. Les jeunes et les aînés nettement surreprésentés. C'est chez les jeunes et les aînés que la proportion de décès a le plus augmenté. On remarque une hausse des décès chez les 15 à 24 ans avec 9 décès de plus par rapport à 2024. C'est une hausse de 20%, précise la porte-parole. Il s'agit d'une situation notable étant donné que cette tranche d'âge est sous-représentée parmi les automobilistes. On sait que cette catégorie d'âge ne représente que 8% des détenteurs de permis de conduire, mais pourtant, ils sont représentés à 12% dans les accidents mortels. C'est encore préoccupant pour les jeunes conducteurs, ne serait-ce que pour la vitesse, les comportements imprudents qui sont adoptés encore plus, prévient Geneviève Côté. Les 65 ans et plus sont encore plus surreprésentés parmi les victimes. On a une hausse des décès de nos aînés sur nos routes au Québec. Une hausse de 19 décès par rapport à 2024, relate la porte-parole. Il s'agit d'une hausse de 35%. Les piétons sont aussi une catégorie particulièrement à risque, avec une hausse des décès qui frôle les 12% à l'échelle provinciale. Bilan dévastateur dans la capitale nationale. Parmi les régions, c'est dans la capitale nationale, et plus particulièrement à Québec, que le bilan est le moins reluisant. Pour ce qui est de la capitale nationale, on a une hausse des personnes décédées, 35 décès, et des personnes blessées en 2025. C'est une hausse marquée de 88,2% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, souligne Geneviève Côté. Uniquement dans la ville de Québec, le nombre de personnes tuées sur la route est passé de 8 à 18 en un an. C'est pour ça que c'est important de poursuivre nos opérations de sensibilisation, estime la porte-parole. Le nombre de blessés graves est aussi en hausse dans la région, plus 15,9%, tout comme les blessés légers, plus 12,2%. Finalement, il y a aussi une augmentation plus marquée des motocyclistes décédés. On est passé de 2 motocyclistes en 2024 à 5 cette année, ajoute la porte-parole. C'était Bilan routier 2025, les jeunes et les aînés à risque. Un texte de Félix Morissette-Beaulieu, publié le 16 juin 2026 dans Radio-Canada.